Vous écoutez
RMC.
On a parlé du Brésil, maintenant on va parler de l'adversaire du Brésil. L'une des meilleures équipes africaines, peut-être la meilleure pour certains. Enfin, on va dire que ça se joue à touche-touche avec le Sénégal, le Maroc. On va en parler avec Younes Belhanda, qui fait partie de notre Dream Team, évidemment, et qu'on est ravis de retrouver. Salut Younes.
Bonsoir à tous, salut, ça va?
Salut Younes. Ça va, ça va.
Salut à tous. Salut
Younes. Bon, Brésil-Maroc, premier gros choc de la Coupe du Monde. J'allais te dire... le champion d'Afrique, mais bon, considérez qu'il y en a deux. Allez, on va dire qu'il y en a deux, parce que finalement, pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Est-ce que toi, tu considères aujourd'hui que le Brésil est le méga favori de ce match, Younes, ou tu te dis, vu l'état du Brésil et vu ce dont le Maroc est capable, il n'y a pas vraiment de favori pour ce match. Quel est ton point de vue?
Si tu regardes au niveau historique, bien sûr que le Brésil, il est favori. Quand tu regardes l'historique du Brésil. Je sais même plus combien ils ont de Coupe du Monde.
5.
Et combien de. Donc voilà. Donc le favori, c'est le Brésil. Mais au vu des performances du Maroc sur ces dernières années, ils ont leur mot à dire, surtout sur un match de demain. C'est un match pas qualifié. C'est pas un match à élimination directe, donc c'est un match de poule, premier match. Donc voilà, je pense que le Maroc a de grandes chances de gagner ce match parce qu'ils ont de très bons joueurs, que ce soit technique, tactiquement.
Ce serait quand même une sacrée surprise, hein. Si demain le Maroc gagne.
Je ne sais pas ce que tu appelles sacrée surprise. Je sais. En fait, il faut. Où est-ce qu'on met le curseur? Je ne sais pas. Toujours est-il que l'histoire du foot, elle évolue, bien sûr. Et là où, ne serait-ce qu'en 98, c'est déjà il y a longtemps, un peu plus de 25 ans maintenant.
Il y a un Brésil-Maroc.
On ne se posait pas vraiment la question. Le Brésil était largement favori et le Maroc qui allait à la Coupe du Monde, le fait juste d'aller à la Coupe du Monde, c'était déjà quelque chose de très important pour une sélection comme celle du Maroc. Et que tu perdes contre le Brésil, je pense que peu de gens avaient beaucoup d'espoir et peu de gens étaient finalement très déçus à la fin. Il se trouve que le chemin parcouru depuis 20-25 ans maintenant par beaucoup de sélections en Afrique et notamment par le Maroc, parce que les installations, parce que la qualité des joueurs, les joueurs qui vont jouer maintenant dans les grands clubs, on n'est plus du tout là-dedans. Et on vient de faire il y a 5 minutes le débat sur la régression du Brésil au niveau mondial. Et ben en parallèle, il se trouve que le Maroc, lui, a beaucoup progressé à peu près à tous les niveaux, je viens d'en évoquer certains, et que... Oui, ok, je veux bien qu'on s'amuse à dire que le Brésil est favori de ce match. Ok, pourquoi pas.
Je pense pas. Tu vois les courbes se croiser, toi?
En tout cas, il n'y aurait rien de choquant au vu de ce qui s'est passé dans l'histoire récente à ce que les courbes se croisent et que le Maroc batte le Brésil. Je ne tombe pas de la chaise demain si le Maroc bat le Brésil.
Maroc demi-finaliste
de la dernière Coupe du Monde, ou finaliste de la dernière CAN, si tu veux dire que le champion c'est le Sénégal, quand tu vois
le parcours récent du Maroc sur ce qu'il a fait ces dernières années, le Maroc, je dirais qu'il est favori par rapport au Brésil, okay, avec ce qu'il a démontré. Sur ce qu'a fait le Brésil ces dernières années, tu dis demain le match Maroc-Brésil, tu mets une pièce sur le Maroc.
Attends, je pose une question à Younes. Faisons un petit jeu. Ouais. Younes, aujourd'hui, je te demande quel Marocain tu mettrais titulaire dans l'équipe du Brésil. Ça veut dire que tu remplaces le même gars côté brésilien.
Il y a que Hakimi. Achraf Hakimi, Mazraoui.
Les deux latéraux. Ouais.
Achraf Mazraoui, Diaz.
Brahim Diaz.
S'il jouerait en 10, Diaz.
Il fait le 10 traditionnel brésilien.
C'est ça. Oui. C'est ça.
Mais après, c'est
donc
vrai.
En 10, après, je mettrais Diaz.
Il n'y en a que 3. Moi, je vais
quand même. Ça fait 3 sur 11. C'est pas beaucoup.
Je vous pose une question.
Puisqu'on parlait des favoris. Après, pour moi, le Brésil reste un chouï favori.
D'accord.
Parce que Vinicius parce que Rafinha, parce que ces joueurs, on va dire, capables de faire le Maroc l'a pas.
Casemiro en fin de course, c'est toujours mieux que Boadi ou El Ainaoui.
Non mais les gars, un moment, moi je suis d'accord. Sur le principe, je suis pas en désaccord. Par contre, il y a des bookmakers, ok, et on a un partenaire par exemple qui est Winamax. À votre avis, c'est quoi la cote de demain?
C'est 6 pour le Maroc.
Donc en fait, ils sont ultra pas favoris.
Les gars, c'est des professionnels. Néanmoins, pour moi, le Brésil reste favori.
Le Brésil, c'est 1,60 et le Maroc, c'est 5,10.
Moi, Kevin, tu m'excuses, je vais pas faire l'analyse du Brésil-Maroc.
Non, tu fais pas d'analyse, mais il y a un moment, c'est des professionnels.
Moi, je vais te dire un truc. Puisque tu dis Boadi, moi, je te dis Boadi par rapport à Casemiro. Je te dis juste comment vous venez de Casemiro, c'est forcément au-dessus en fin de si comme ça.
Bien sûr, les gars.
Mais non, je suis pas d'accord. Il y a match. Mais moi, je pense que là où on dit, je dis que quand tu lances le truc en disant sacrée surprise, je dis c'est presque manquer de respect au Maroc.
Non, pas sacrée surprise.
Non, mais attends, je veux juste finir ce que j'ai à dire. Je te dis juste que dans les joueurs. Qui, puisque tu disais là tout à l'heure, on compare les joueurs, c'est une chose. Peut-être qu'il y en a que 4-5 que tu mettrais à la place. Oui, t'as raison, Daniel. Offensivement, les Rafinha, les Vinicius, c'est impressionnant. Mais dans l'histoire collective de ce qu'ils ont construit récemment, moi je te dis que là, tu arrives demain. S'il y a match nul ou s'il y a victoire du Maroc, comme disait Younes, moi je serais pas du tout étonné.
Sauf qu'on oublie un élément important. Faut pas oublier
collectivement. Bien sûr, le Brésil individuellement. Ils ont des joueurs de classe mondiale, que ce soit Rafinha, que ce soit Vinicius, tu as au milieu Casemiro d'expérience, tu as Paqueta, tu as en défense centrale Marquinhos, Gabriel, tu as du monde individuellement, bien sûr. Mais collectivement, sur ce qu'ils ont montré le Brésil ces dernières années, c'est pas la force collective du Maroc de ces dernières années.
Alors attention,
Younes, si collectivement demain le Maroc gagne le match, ce sera pas une surprise pour moi.
Alors maintenant, c'est débat et question en même temps. Qu'est-ce que va faire le Maroc contre le Brésil? Ça, pour moi, c'est une question importante parce que j'ai trouvé qu'ils avaient. Alors, si on reste au plan continental. Le Maroc est devenu une grande puissance de son continent et une équipe qui est totalement protagoniste, qui veut faire le jeu. C'est ce qu'a construit Walid Regragui.
Avec un nouveau sélectionneur aussi, c'est bien connu.
Mais ce qu'a construit Regragui, c'est que le Maroc est une équipe qui maintenant, en tout cas sur le continent, doit faire le jeu, doit dominer son adversaire et jouer de façon offensive.
Ce qui ne faisait pas en 2022. Hein, 2022
au niveau, attention, c'est à ça que je voulais en venir. Voilà. Au niveau mondial, il va falloir que le Maroc se trouve une identité. En 2022, il faut pas qu'on soit totalement aveuglé par ce qui s'était passé contre l'Espagne, collectivement, ils étaient en dessous et ils ont opté pour une stratégie ultra défensive qui les a emmenés à une qualification historique. Contre la France, ils ont encore joué de façon assez défensive. Dans les matchs de poule, ils avaient été plus ambitieux. Néanmoins, au niveau mondial, le Maroc, on ne sait pas encore les situer dans leurs ambitions, dans ce qu'ils veulent faire sur le terrain. Et là, j'attends une réponse. J'attends une réponse de l'entraîneur. Il joue le Brésil, une équipe qui va pas se poser de questions. Le Brésil, ils vont vouloir imposer leur rythme, ils vont vouloir dominer la rencontre, prendre le ballon. Qu'est-ce que va faire le Maroc? Pour moi, elle est là la grande question. Avant de savoir qui est favori, est-ce que le Maroc a ses chances? Évidemment, le Maroc a assez de qualité, assez aujourd'hui de background pour se dire « moi, je veux exister dans le match et tout ». Mais de quelle façon? Là, moi, pour moi, c'est une question très importante.
Réponse de Younes.
Moi, je pense que l'entraîneur est assez ambitieux dans le jeu parce qu'il sait qu'il a les joueurs de qualité, que ce soit au milieu de terrain, les deux latéraux que vous connaissez très bien, Hakimi, Mazraoui, qui savent jouer au ballon, qui savent monter, qui savent dédoubler, qui savent jouer en mode hybride. Ils ont les joueurs au milieu qui ont beaucoup de coffres, qui courent beaucoup, qui courent énormément, donc qui pourront faire les allers-retours.
Et devant, Younes, j'ai un peu peur, si vous me permettez, juste un truc.
Younes, moi j'entends encore une fois, mais demain le Maroc, ils ont quand même de grandes chances et c'est très bien, il y a pas de souci, mais c'est de jouer en bloc bas face au Brésil. Ils vont jouer en bloc médian.
C'est ça que je veux savoir. Moi j'en sais rien. Mais je ne sais pas. Je veux savoir.
On verra. Mais pour moi,
bien sûr, ce coach a l'ambition de tout, je pense pas qu'il va jouer en bloc bas.
Ce qu'a fait le Maroc, c'est magnifique. L'Académie Mohamed VI, la formation des joueurs, le développement depuis 15-20 ans qui est extraordinaire.
C'est le moment d'avancer.
Mais aujourd'hui, le Brésil, en 2018, ils sont éliminés sur un miracle contre la Croatie, parce que les Croates, ils sont cramés dans le match.
En 2022,
dans la dernière compétition, ils sont cramés et ils doivent passer tous les jours le Brésil, alors que les autres, ils leur mettent un bus monstrueux et qu'ils se passent au pénalty. Faut pas oublier. Mais le Brésil, s'il va en demi finale, ils peuvent taper
Kevin,
la France.
Mais ce que tu veux dire ne change pas l'idée que
le Brésil demain est favori.
Évacuons le débat du favori. Moi, ce que j'attends du Maroc maintenant, c'est au vu de tout ce qui se passe ces dernières années, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Quel visage vous allez nous montrer?
On est quand même sur une sélection.
Younes était en train d'expliquer ça. J'aimerais bien qu'il termine là-dessus.
Ah oui, non, mais le nouvel entraîneur, moi, je pense qu'il va vouloir faire le jeu parce qu'il va pas déroger à sa caractéristique.
Ça, j'adore. J'aimerais bien voir ça.
Ben, je pense qu'il va le faire. Il a les joueurs pour. Il a, comme je t'ai dit, le milieu des terrains, ils ont un coffre. C'est des marathoniens. Donc, ils peuvent jouer, se permettre de perdre des ballons plus haut et revenir plus bas, pas en jouant en bloc bas ou bloc médian, mais de pouvoir faire le jeu. Ils ont des joueurs.
Mais comment ils vont gérer les transitions, soit... Younes?
Après, il y a un truc.
Parce que Younes, ça va vite au Brésil. Hein.
Pour rebondir sur Flo,
et après, on écoute, ça va très vite. Si tu me mets sur la longueur Achraf Hakimi et Vinicius, je mets une pièce sur Hakimi aussi. Hein. Rafinha. Et de l'autre côté, Mazraoui aussi, il va très très vite.
Sur ce débat, justement, de la, qui sera protagoniste ou pas. Moi, je reviens sur ce que dit Daniel. La façon dont ils ont géré la Coupe du Monde 2022, effectivement, quelque part, c'est presque simple. Tu es un peu dans la position de l'outsider, tu assumes de jouer comme ça et tu vas créer la surprise.
Mais maintenant, ça a changé, le Maroc a changé.
Ça a changé, mais je pense que ce serait une erreur, à mon avis, si, même s'il a envie de le faire, et ça dépend des matchs, si Wabi, demain, le sélectionneur, immédiatement dit non, on va être protagoniste, on va prendre le jeu. Non, mais t'as le Brésil.
Moi, je lui en voudrais pas.
Non, mais je dis pas que, bien sûr, sur le principe, je suis aussi pour ce genre d'entraîneur. Je dis juste que si t'as la chance, entre guillemets, d'avoir un Brésil qui, comme tu l'as dit, va de toute façon pas se poser de questions, tu as aussi la chance et l'intérêt et l'expérience de ce que tu as justement construit dans cette grande compète de 2022 pour dire on est capable de leur faire mal aussi en transition et s'adapter. Donc je dis juste que je pense juste à ça. Quand tu récupères une sélection qui a été performante, et c'est le cas de ce sélectionneur, autant se servir des acquis et de ce qui a marché quand même, notamment quand en face de toi, tu as une équipe protagoniste. Donc moi, je dis pas que ce sélectionneur n'aura pas d'idée de jeu.
Oui, sauf que depuis 2022, tout ce qui a été travaillé par ce groupe, c'est de devenir une équipe qui fait le jeu.
C'est vrai.
Ça a toujours été l'intention des Marocains maintenant, c'est de plus jouer en petite équipe, c'est de jouer en équipe ambitieuse. Mais Younes est en train de me parler des attaquants, parce que pour moi, on en parle trop peu. Parce que l'équipe, c'est un peu comme si elle s'arrêtait à Brahim Diaz. Mais j'aimerais qu'on parle de ceux qui sont devant lui.
Bien sûr, il y a Saïbari qui peut jouer en neuf. Il y a El Kabi qui peut jouer aussi en neuf. Mais je pense qu'il a opté plus pour le choix Saïbari, qui est plus technique, un peu plus robuste devant. Et sur le côté gauche, moi je pense que demain, il peut mettre El Khanous à gauche.
Oui, parce que Zalzouli est forfait, on le rappelle.
Zalzouli est forfait. Il y a Talbi qui peut jouer côté gauche. Mais moi, je pense plus qu'un Khanous demain pourrait jouer. Il s'est rentré à l'intérieur. Il a un gros volume de jeu. Et il est bon balle au pied. Il s'est percuté. Donc je le verrai bien, moi, sur le côté gauche.
Alors, il y a aussi un truc sur la défense centrale, parce que donc, il y a Diop, qui est un nouveau international marocain, qui a été naturalisé il y a peu, là, et qui fait sa première grande compète. Ouais. Et Aguerd, le pauvre, est forfait lui aussi.
Ouais, forfait.
Donc on va avoir forcément une paire un peu nouvelle, qui n'a pas beaucoup joué ensemble.
Ça, c'est une interrogation. Aguerd était important en sélection pour son jeu de tête, que ce soit défensif, offensif. C'était un joueur très important.
Même dans le groupe, hein. Daniel, même dans le groupe.
Bien sûr.
Il a de la bouteille. Donc voilà, c'est l'ancienne génération, la nouvelle génération. Il était un peu entre les deux, donc et c'est surtout un gars super sympathique qui est très bien élevé et c'est vraiment une très grosse perte pour le Maroc. Mais je pense qu'il a été honnête avec lui-même, avec le groupe. Et je pense qu'il savait qu'il n'était pas physiquement en forme pour commencer ce début de tournoi. Et donc le coach et je pense lui-même, ils ont pris cette décision de le mettre à l'écart. Mais après, Diop a montré sur les débuts avec le Maroc qu'il est costaud, qui reste un très bon joueur de foot. Hein. On l'a connu en France. Donc voilà, moi je suis assez confiant. Il y a Shadi aussi qui est à côté de lui. Qui joue en Angleterre, donc voilà, c'est assez costaud.
Oui, Shadi, Crystal Palace. Normalement, Shadi, logiquement, il devrait jouer demain avec Diop, tu penses?
Je pense que la paire demain sera Diop, Shadi. Je pense que ça va être ça.
J'espère que personne va nous dire qu'il fallait prendre El Yamik. Parce que lui.
El Yamik, après, oui, avec.
Avec la canne et tout, le pauvre, il s'en est pris plein la tronche.
Mais bon, ça reste un super joueur.
Et Younes, merci beaucoup, c'était très sympa de t'avoir.
Avec plaisir.
Salut,
Younes,
bah écoute, on reparle du Maroc régulièrement et rendez-vous demain d'ailleurs pour en reparler ensemble. Salut Younes, bonne nuit. Bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Salut Younes. Ciao.
Salut Younes.
Écoutez Achraf Hakimi, tout de suite il parle du Brésil.
Je pense que on sait, comme je dis déjà, que l'adversaire qu'on va jouer demain, on connaît la nation du Brésil, la qualité qu'elle a, les joueurs qu'ils sont. Mais aussi, nous, on a de la qualité et en Afrique, ils s'appellent nous les Brésiliens africains. Ce que nous aussi, on est des joueurs de qualité avec notre force. Et je pense qu'on est prêt pour faire quelque chose de grand avec la confiance, avec tout le soutien de tous les Marocains. Et je pense qu'on va être bien performant pour cette Coupe du Monde et bien commencer dès le match de demain.
Voilà pour Achraf Hakimi. Alors, concernant Achraf Hakimi, il y a une question qui n'a rien à voir avec le football qui va se poser sans doute. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité liée au Ghana, mais Thomas Partey n'a pas pu entrer au Canada. Thomas Partey qui est sous le coup d'une enquête pour des violences sexuelles et qui donc a été interdit de territoire canadien, vraisemblablement parce qu'il n'y a pas d'officialisation des autorités canadiennes, mais vraisemblablement pour cette raison. Donc il ne pourra pas disputer le match du Ghana dans la nuit de mercredi à jeudi face au Panama. Il est accusé de plusieurs viols et d'agressions sexuelles. Donc que va-t-il se passer avec Achraf Hakimi qui a aussi une affaire en cours?
Je sais pas, moi, quand c'est les États-Unis, tout le monde est vent debout. Donc, qu'est-ce qu'on dit des progressistes canadiens?
Puisqu'en fait,
ils ont le droit de le faire ou ils n'ont pas le droit de le faire? Chacun est libre de gérer son pays comme il veut ou bon, on verra, va encore donner des leçons là?
Pour la, attention, la phase de poule, les Canadiens, enfin, oui, les Marocains.
Ce serait pour après.
Les Marocains jouent aux États-Unis, mais si jamais il y a un match au Canada.
Non, parce que pour en revenir à ce pauvre arbitre somalien, moi, évidemment, vu de mon balcon à moi, je trouve ça ouf. Mais vu du balcon américain, personne, pas un citoyen, pas un membre de parti politique ou un média.
On n'a pas interrogé tous les citoyens américains.
Dans les médias, tu aurais trouvé des répercussions. Non, que ce soit dans un média plus à gauche.
Il y en a dû en parler aux États-Unis.
Le New York Times a fait.
Ça n'a choqué personne.
J'ai vu énormément
de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont, d'un point de vue légal et règlement de la loi américaine, ça n'est absolument pas discutable.
Ça n'est pas discutable. Là, on n'est pas sur la loi.
C'est comme au football, il y a la lettre et l'esprit, en fait.
Bah oui. Il n'y a pas d'esprit dans les règles de l'immigration américaine. Il n'y a aucun esprit.
Il pourrait y avoir un esprit pour accueillir le monde.
Mais.
Voilà. Et faire du meilleur arbitre africain somalien une sorte de symbole et de dire ben oui on considère nous
tu considères de ton balcon
de ton balcon
français parisien, mais je suis désolé, laisse-les gérer comme ils veulent gérer, exactement comme les Qatariens ont géré comme ils voulaient.
Non mais
on peut laisser rentrer tout le monde, et vu
des autres pays, je te signale que la France fait beaucoup d'erreurs. Nous regarde, en France
chacun peut juger, mais c'est pas parce que tu juges que c'est pas la bonne solution qu'ils ne peuvent pas la faire.
Mais
t'as quand même le droit de penser qu'un pays pourrait faire autrement.
Je te dis que je pense la même chose que toi. Toujours est-il que le jugement sur ce que fait un pays dans son pays, je pense que c'est un peu inutile et déplacé.
Oui, non, mais ça, d'accord.
Et je te répète que de mon balcon, j'aurais fait comme dit Gilbert. Sauf que mon balcon, on s'en fout.
Et puis l'autre problème de cette histoire, c'est comment la FIFA s'est couchée lamentablement en disant oh non, nous, on n'y est pour rien. Voilà pour le Maroc, on attend ce match demain, on va se régaler.
Et qu'au passage, c'est
entre le Brésil et le Maroc.
C'est l'UEFA qui a trouvé une compensation.
Enfin, National Real IFI, tu veux dire?
Oui, mais en l'occurrence.
Viens m'arbitrer, viens m'arbitrer.
Donc on a un jeu géopolitique, donc on a un jeu en réponse géopolitique.
Qui lui a trouvé donc l'arbitrage de la finale.
Voilà. Mais bon, on a soufflé l'idée.